Bonjour à tous et bienvenue dans À propos, qui cette semaine sera notre épisode spécial annuel produit par les étudiants de l'Institut du Fondement. Chaque année, ces étudiants ont l'occasion de découvrir le travail médiatique en réalisant des projets tels que la création d'un annuaire étudiant, la promotion de l'Église sur les réseaux sociaux et l'apprentissage de la production vidéo. Voici l'annuaire de la classe, dont, soit dit en passant, nous allons envoyer un exemplaire à chaque congrégation pour l'exposer sur la table d'information. L'autre grand projet consistait à acquérir de l'expérience en vidéo en produisant une version étudiante de À propos. Les étudiants bénéficient d'une initiation pratique à toutes les étapes de chaque production. Et ce faisant, ils apprennent beaucoup, prennent beaucoup de plaisir à le faire et acquièrent une bien meilleure compréhension de ce que représente réellement la création d'un programme vidéo tel que celui-ci. Eh bien, pour le reste de cette émission, j'ai donc le plaisir de vous présenter la 14e édition annuelle de la production de À propos par l'Institut du Fondement.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de À propos, consacrée à l'Institut du Fondement. Nous serons les présentateurs de cette émission. Je m'appelle Tiffany Hamilton.
Et je m'appelle Paul Hamilton. Tiffany et moi avons vécu beaucoup de moments dans notre mariage, mais c'est aujourd'hui un épisode inédit et nous sommes absolument ravis de vous présenter cette émission. Je pense pouvoir parler au nom de toute la classe en disant que ces 9 derniers mois sont passés à toute vitesse. Nous avons été très occupés avec les cours, les projets, les sorties pédagogiques et de nombreuses activités en dehors des cours. J'entends dire que nous avons des informations de dernière minute concernant la météo au Texas, donc je vais passer la parole à Josh pour nous en parler.
Merci Paul et Tiffany, c'est un plaisir d'être ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons une méthode très complexe pour déterminer la météo. Beaucoup de variables entrent en jeu. Quoi qu'il en soit, allons vérifier les instruments. Alors dis-moi, caillou de la météo, quel temps fait-il ? Comme vous pouvez le voir, le caillou est mouillé.
Merci pour cette mise à jour, Josh. On n'a pas lésiné sur les moyens pour l'équipement météo. Je me demande si Noé avait la même chose en construisant l'arche.
Chaque année, la promotion de l'Institut du Fondement choisit un sujet sur lequel se concentrer pour leur édition d'À propos. Cette année, notre classe a choisi d'insister sur le thème de notre famille spirituelle à travers le monde. Qu'est-ce qui est similaire ? Qu'est-ce qui est différent dans leur progression chrétienne ?
Un autre domaine passionnant que nous allons mettre en avant est FOI, la Fondation de l'œuvre internationale, une organisation à but non lucratif fondée par l'Église de Dieu. FOI soutient l'enseignement, l'éducation, le développement communautaire et des projets de service à l'échelle mondiale.
Notre amie et camarade de classe, Ella Erickson, a en fait participé à l'un de ces projets et elle connaît personnellement l'impact que cela peut avoir. Elle s'est entretenue avec Jessica Schultz pour parler davantage du programme et des personnes qu'il touche.
L'une des choses qui m'a vraiment marquée comme ayant un impact profond, c'est ce moment-là, n'est-ce pas ? Ce moment que l'on ressent, pas seulement que l'on connaît, mais que l'on ressent profondément, selon lequel nous formons tous un seul corps. Et je pense que cela rend le fait de faire partie de l'Église de Dieu, de sa famille, encore plus spécial pour chacun. Parce que vous voyez à quel point c'est grand, bien plus grand que soi-même, tu vois, ou plus grand que ta propre congrégation. Parce que c'est nous, et tous ensemble. Et je pense que cela a été très significatif pour moi. Ça m'a profondément marquée, vraiment. Dans chaque pays où je suis allée, les frères et sœurs ont été tellement accueillants. Ils étaient les bras ouverts, littéralement. Ils vous prenaient dans leurs bras, prêts à vous accueillir. De sorte que vous vous sentez vraiment bien accueillis en arrivant, et prêts à participer. Lorsque vous partez à l'étranger, vous rencontrez des personnes dont les expériences de vie ont été très différentes des vôtres. Et pourtant, vous partagez avec elles la chose la plus importante en commun. Comment votre vie pourrait-elle ne pas en être enrichie? Comment pourriez-vous maintenant ne pas regarder les choses plus en profondeur et sous un angle différent de celui que vous aviez auparavant? Et je pense qu'à chaque fois que nous pouvons faire cela, cela fait de nous de meilleures personnes.
Je m'appelle Léa Ngwenya et je viens de la congrégation de Lusaka, en Zambie, où j'étudie le droit. Mon intérêt pour le droit s'est développé. Quand j'étais jeune, je regardais souvent, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, celle du juge Judy. Oui, je regardais cette émission et j'étais fascinée par ce qui s'y passait. Et puis, à un moment donné, je me suis mise à me demander, vous savez, quand ils finissent par arriver au tribunal, c'est forcément qu'ils ont commis quelque chose de vraiment mal. Mais alors, je me demandais, comment savoir que ce que l'on fait est mal sans connaître la loi? C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser aux études de droit, afin de connaître la loi. Sans la bourse étudiante, je pense pas que j'aurais pu aller aussi loin, car... Certes, le gouvernement propose des prêts étudiants et tout ça, mais cela ne couvre pas tous les besoins. Il y a des étudiants dans mon université qui bénéficient de prêts gouvernementaux, mais cela ne suffit tout simplement pas à payer leurs frais de scolarité. Mais la bourse étudiante, elle, a tout pris en charge. J'ai une chambre, un endroit où loger, j'ai de quoi manger, alors que d'autres qui sont sur le prêt gouvernemental ne peuvent pas se le permettre autant. Et le prêt gouvernemental n'est pas non plus facile à obtenir. Et je n'aurais pas réussi à l'obtenir.
Eh bien, j'ai choisi la microbiologie. J'étais curieuse au sujet de tous ces minuscules organismes que l'on peut avoir à l'œil nu. Je voulais m'épanouir professionnellement dans un domaine où je pourrais observer et analyser en profondeur les bactéries ou les agents pathogènes qui sont à l'origine de diverses maladies, ainsi que ceux qui s'avèrent particulièrement précieux et bénéfiques pour la santé humaine. Si je n'avais pas pu bénéficier de cette bourse d'études, je n'aurais jamais eu l'opportunité de suivre l'intégralité de ce cursus universitaire, car mes parents ne disposent malheureusement pas des ressources nécessaires pour financer mes études, et les frais de scolarité représentent une charge bien trop lourde pour leur budget. Oui, ils sont simplement de modestes agriculteurs. Tu sais, je suis désormais bien mieux informée, bien mieux documentée sur les bonnes bactéries, et je peux donner des conseils avisés sur ce qu'il faut manger pour conserver une bonne santé et pour se sentir bien.
Waouh, c'était vraiment inspirant d'en entendre parler. Cela semble être une expérience incroyable de partir à l'étranger et d'avoir l'opportunité de servir. Paul et moi aimerions beaucoup y aller un jour dans le futur. Faire connaissance et servir les frères et sœurs dans d'autres pays.
Encore une alerte météo, chers amis. Eh bien, nous allons maintenant rendre l'antenne à Josh, Josh et Josh.
Est-ce que quelque chose a changé? Comme vous pouvez le voir, la roche est toujours mouillée.
Merci pour cette mise à jour, messieurs. Il semble que ce soit une tradition dans « À propos » de faire savoir à nos frères et sœurs quel temps il fait ici au Texas. Eh oui, mes amis, 25% des étudiants de notre cours de FI s'appellent Joshua. Et tous les trois se font appeler Josh. Tihani, pour parler de pourcentage, sais-tu que l'Église de Dieu compte des membres dans 70 pays et que plus de 50% de nos frères et sœurs vivent en dehors des États-Unis? Ces membres ont tous des parcours différents et des histoires à raconter.
Pour en savoir plus sur leurs histoires, nous avons mené des entretiens avec plusieurs de nos membres dans différents pays. Certains ont été réalisés en personne, d'autres par vidéo, et quelques-uns proviennent de ceux qui nous ont écrit à propos de leurs expériences. Je précise qu'en raison de certains problèmes audio, de bruit de fond ou de langues différentes, des sous-titres ont pu être ajoutés. Pouvez-vous nous parler un peu de la composition des frères à travers les Caraïbes et de la manière dont vous restez tous connectés en tant que congrégation étendue?
En tant que congrégation étendue, c'est un peu difficile en raison des déplacements. Ce n'est pas comme faire 2 heures de route pour aller dans un autre état. Il s'agit d'un billet à 500 ou 600 dollars pour aller voir quelqu'un d'autre. Mais nous restons en contact. L'application WhatsApp est un outil de communication vraiment essentiel et absolument indispensable pour nous tous ici dans les Caraïbes. Nous l'utilisons donc. Il se trouve que je viens justement de parler, plus tôt dans la journée, avec l'un de nos membres qui se trouve actuellement à la Barbade. Nous avons l'occasion de discuter de temps en temps. Nous restons en contact, même si nous ne pouvons pas nous voir. Mais grâce à la relation que nous avons lors des assemblées en commun, on apprend à connaître les personnes par leur nom. On fait la connaissance de nombreuses personnes sur les différentes îles. l'accent mis sur le fait d'avoir une seule assemblée a vraiment beaucoup contribué à nous unir. Et même si l'assemblée est un peu particulière, il se peut que la direction des cantiques vienne de la Barbade et la prière d'ouverture vienne de l'île de Saint-Christophe et Nieff. Puis M. Hampton prononcerait le sermon depuis Palm Beach, en Floride. C'est donc une opportunité unique que nous avons, propre à nous en tant que frères et sœurs dans les Caraïbes. C'est ainsi que cela nous permet de rester soudés, comme une famille.
En Inde, nous ne sommes pas très nombreux. Dans ma région, nous sommes environ 15 personnes. Et dans ma famille, nous sommes 6. Mon père est décédé et le dernier à nous avoir quittés. Un groupe diversifié de personnes venant de toute l'Inde, à Calcutta, avec un petit groupe d'environ 20 personnes au total. Seulement 20, 25 ou peut-être 30 personnes. Nous sommes présents dans tout le pays actuellement et nous comptons 2 autres membres supplémentaires. L'une d'elles se trouve à Hyderabad. C'est une dame âgée qui est souffrante. Actuellement, elle est divorcée et elle réside désormais là-bas, dans cette grande maison, en compagnie de sa propre mère, ainsi que de 2 autres personnes qui sont médecins de profession.
Avez-vous une assemblée pour les membres ici, dans cette région ?
En réalité, la plupart du temps, nous avons notre assemblée familiale.
D'accord.
Et parfois, ils viennent chez nous et nous tous, nous nous réunissons.
Belinda d'Indonésie a déclaré ceci. Je pense que le plus grand défi en tant que chrétien dans notre pays, l'Indonésie, c'est d'être isolé et éloigné des autres frères et sœurs. Surtout pour moi, la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand groupe d'amis du même âge, c'était lors de la fête des tabernacles 2011 aux Philippines, quand j'avais 13 ans. Même si nous vivons dans un pays avec une population majoritairement musulmane, Dieu nous a bénis avec des voisins très aimables et nous pouvons toujours ressentir sa protection sur notre famille.
Quel est le plus grand défi que vous rencontrez en tant que chrétienne dans votre pays ?
En tant que citoyenne des Bahamas, je vis dans une société hautement démocratique et la liberté religieuse y est acquise. Ainsi, d'un point de vue gouvernemental, il n'y a aucune pression exercée contre nous en raison de nos convictions religieuses. Nous sommes libres d'observer le sabbat, les jours saints, etc. Je pense que le plus grand défi serait le même que celui auquel vous faites face dans votre pays, à savoir une moralité en déclin. Même si nous reconnaissons que nous sommes une nation chrétienne, nous constatons la décadence dans la manière dont les gens perçoivent leurs normes, leurs codes d'éthique et ce genre de choses. Ainsi, pour moi, le plus grand défi serait de tenir bon et d'affirmer que ce qui est juste, et que ce qui est mal, sans craindre les conséquences négatives que cela pourrait entraîner. Je pense aussi qu'il y a le défi de continuer à être une lumière. Vous vivez dans une société plus petite, vous êtes un petit groupe, donc vous voulez toujours donner le meilleur de vous-même, surtout lorsque les gens savent qui vous êtes. Au final, représenter Dieu, représenter son Église, fait partie des défis auxquels, je pense, nous sommes tous confrontés dans n'importe quelle société.
Le véritable défi, comme un peu partout aux quatre coins de la planète, c'est que mener une vie chrétienne est sans doute la tâche la plus difficile qui soit. Obéir à Dieu et observer scrupuleusement le sabbat, tout en devant gérer les impératifs de la vie courante, de votre famille. Lorsque vous vous efforcez de vivre en tant que chrétien, cela représente sans aucun doute le plus grand défi auquel vous ferez face. C'est tout simplement parce que le monde ne connaît pas Dieu. Ils mènent leur vie quotidienne selon la manière que Satan leur dicte. Mais lorsqu'on essaie de vivre une vie chrétienne, c'est là que ça se complique le plus.
Je dirais personnellement, et je parle également au nom de mes chers frères et sœurs de l'Église, que le plus grand défi au Pérou pour une personne chrétienne de l'Église, que le plus grand défi au Pérou pour une personne chrétienne est sans doute de pouvoir observer le sabbat. La plupart des emplois au Pérou vont du lundi au samedi, et si vous demandez ce jour de congé, votre employeur vous dira « Vous savez quoi ? Si vous venez pas travailler le samedi, vous êtes licencié. » Un autre grand défi dans notre Église survient lors de la fête des tabernacles, car il faut demander toute la semaine de congé pour la fête. Et les employeurs disent toujours « Non, si vous ne venez pas travailler, alors vous êtes licencié. » Un autre défi concerne également les parents dans les écoles lorsqu'ils doivent demander une autorisation pour la fête des tabernacles. Je pense que c'est le principal défi ou obstacle auquel nous sommes confrontés en tant que chrétiens dans notre Église et dans notre pays.
Elna et Johan, d'Afrique du Sud, ont constaté que l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face en tant que chrétiens dans ce pays est l'isolement spirituel, en particulier parmi les frères et sœurs. Dans de nombreuses régions, l'âge moyen des membres est plus élevé et les liens sociaux réguliers, en dehors des assemblées du sabbat, ne sont pas aussi fréquents. Cela peut parfois causer des moments de grande solitude, même s'ils font partie du corps de Christ. Pour nous, l'un des besoins les plus profonds n'est pas seulement un enseignement solide, mais aussi une fraternité chaleureuse, une véritable connexion, de l'encouragement et une foi partagée. Nous avons besoin les uns des autres. Même quelque chose d'aussi simple qu'un café, un repas, une conversation et du temps passé ensemble peut fortifier les cœurs bien plus qu'on ne le pense.
Fleur Bell, qui a récemment déménagé des Philippines dans la région de Dallas, a indiqué que les Philippines sont une nation où environ 80% de la population est catholique. En tant que chrétiens vivant dans le pays, nous croisons chaque jour les traditions et les pratiques catholiques, non seulement dans les églises et cathédrales, mais aussi dans la plupart de nos relations quotidiennes. À l'école, au travail ou lors de réunions familiales, on s'attend souvent à ce que nous assistions à la messe ou que nous participions aux fêtes et aux célébrations traditionnelles.
Maintenant, je suis curieux. Quelle sorte de tradition ou de coutume spécifique pour le sabbat, vous et votre famille pratiquez-vous ensemble pour rendre ce moment spécial?
Eh bien, pour nous, par exemple, c'est vraiment merveilleux lorsque le vendredi soir arrive et que nous pouvons nous retrouver pour partager. Avec ma famille et d'autres membres de l'église, on nous réunissons chez moi, parfois entre 10 et 15 personnes, pour dîner. Nous apportons tous un plat spécial et nous le partageons avec tout le monde. Nous chantons des cantiques ensemble, nous parlons de notre semaine, de la façon dont elle s'est déroulée pour chacun, comment nous avons réussi à surmonter les difficultés et à arriver jusqu'au vendredi. Puis, nous pouvons passer toute la journée du sabbat ensemble avec nos chers frères et sœurs. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de spécial.
Qu'est-ce qui a été la chose la plus précieuse pour vous dans votre parcours en tant que chrétienne pour rester constamment forte, passionnée et profondément dévouée à Dieu?
Eh bien, je pense que pour moi, la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'avoir trouvé la voie chrétienne. Que Dieu m'ait amenée dans son Église, que Dieu m'ait conduite jusqu'à ce moment. Je sais bien que la vie est très difficile. C'est difficile. Mais lorsque vous faites confiance à Dieu, vous pouvez avancer. Quelqu'un m'a dit un jour, la vie n'est pas facile. Et c'est tellement vrai. La vie n'est pas facile. Mais si nous marchons avec Dieu, malgré toutes les difficultés, Dieu est avec nous. Personnellement, j'ai ressenti l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai traversé des moments difficiles et je sais que Dieu a marché à mes côtés. Il m'a aidé à surmonter ces épreuves et je continue d'avancer. Je continue d'avancer parce que j'ai un but à atteindre, qui est le royaume de Dieu. Et pour moi, c'est très important. J'y attache beaucoup de valeur. Et je m'efforce constamment de faire ce qui est juste et de suivre les conseils qu'il donne. D'étudier assidûment les Saintes Écritures, de rester ferme et de persévérer jusqu'au dernier jour de ma vie. Pour moi, c'est la chose la plus importante.
Fleur Abel m'a confié ceci. La famille est essentielle à mon expérience dans l'Église, ce qui inclut à la fois ma famille proche et ma famille d'Église. Il est très réconfortant de savoir que, où que j'aille aux Philippines, que ce soit Davao, Leyte ou Manille, j'ai toujours une famille d'Église avec laquelle me connecter. C'est l'une des bénédictions pour lesquelles je suis particulièrement reconnaissant, car elle s'étend partout dans le monde. Comme certains l'ont mentionné, savoir que l'on a des frères et sœurs dans le monde entier, lorsque l'on voyage ou que l'on assiste à différents sites de fêtes, est un immense réconfort. Vous vous sentez instantanément connecté, en sécurité, et vous savez que vous avez tant de choses en commun avec eux, parce que vous partagez la vérité. Nous l'avons personnellement ressenti lorsque nous voyageons. Nous avons tous une grande famille spirituelle élargie, répartie à travers le monde. Nous espérons que leurs histoires ont montré que, peu importe où nous vivons en tant que chrétiens, nous affrontons beaucoup des mêmes défis en suivant cette voie de vie. C'est le monde de Satan, mais nous devons rester fidèles et concentrés sur le royaume de Dieu, malgré les défis uniques auxquels nos frères et sœurs sont confrontés à travers le monde. Nous sommes une seule famille, un seul corps, et nous sommes tous unis par l'Esprit de Dieu.
Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode de « À propos », nous avons quelques derniers messages vidéo provenant de l'extérieur des États-Unis. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il aimerait que les frères et sœurs aux États-Unis et les étudiants de FI sachent, Eugene a répondu ceci.
En ce qui me concerne et de mon point de vue personnel, 4 heures, Je tiens absolument à dire aujourd'hui à nos frères et sœurs qui nous regardent, 4 heures, que vous avez véritablement la chance et l'opportunité de rencontrer vos frères et sœurs à chaque étape de votre parcours. Ne prenez pas cela à la légère. C'est une véritable et immense bénédiction. On a tous conscience du fait que lorsque nous nous retrouvons seuls, isolés du reste du monde, on désirons toujours ardemment que d'autres membres soient présents avec nous. Donc, chaque fois que des ministres viennent chez nous, c'est comme une boîte de fête. Et deuxièmement, étudiants de FI, vous avez de la chance d'avoir cette opportunité de rester et d'apprendre auprès de bons enseignants. Alors apprenez autant que possible et utilisez cela pour l'œuvre de Dieu.
Bien dit, Eugène. Cela a été une bénédiction extraordinaire d'assister à FI cette année et d'être entouré de membres de l'Église chaque jour, tout en apprenant davantage sur Dieu et sa parole.
Tu as tout à fait raison, Tiffany. Et j'ajouterais que nous sommes tous ici à FI extrêmement reconnaissants pour cette expérience, pour l'opportunité de la partager les uns avec les autres et pour toutes les prières que chacun d'entre vous qui nous regardait a adressées en notre faveur pour une année FI réussie. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans un autre sabbat, Charlène a un message de sabbat très spécial à partager.
Bon sabbat à tous les autres frères et sœurs des Caraïbes, à chaque fois qu'ils regarderont ceci.
Merci Charlène. Le fait d'écouter tous ces messages inspirants de nos frères et sœurs du monde entier me remet en mémoire le psaume 133, verset 1, qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. »
Nous espérons que cela vous encouragera à voyager dans d'autres régions et à faire la connaissance de plus de nos frères et sœurs. Il est essentiel d'approfondir les relations existantes et d'en créer de nouvelles avec le peuple de Dieu. Peut-être que lors du prochain sabbat, vous pourriez prendre quelques instants pour renouer avec quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps ou pour profiter de l'occasion pour apprendre quelque chose de nouveau sur quelqu'un lors des offices. Nous souhaitons à l'ensemble des membres de notre grande famille spirituelle à travers le monde entier un très merveilleux sabbat, à la fois paisible et reposant. Nous vous disons au revoir et à bientôt.